de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Étudiants indonésiens du programme IISMA du ministère de l'Éducation et de la Culture arrivent au Japon. Statue de Sukarno sera érigée à Moscou. Pologne est intéressée par une coopération dans la zone économique spéciale touristique de Likupang-Sulawesi du Nord. AP1 et IATA ont signé un protocole d'accord concernant l'amélioration des services et des opérations aéroportuaires. Vice-président indonésien Maruf Amin se rend en Chine pour développer les produits halal indonésiens. Train rapide Jakarta-Bandung donnera vie à des opportunités commerciales. Indonésie accueille l'atelier 2023 sur l'élève hydrographique de l'ASEAN. Bon, chers auditeurs, voici le nouvel en complet. Cet étudiant indonésien sélectionné pour le programme indonésien de bourse de mobilité internationale des étudiants IISMA du ministère indonésien de l'éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, Kemendik Budristek, sont arrivés à Tokyo au Japon mercredi 13 septembre. Yusli Wardiatno, attaché à l'éducation et à la culture à Dikbud de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, a déclaré mercredi en accueillant les 7 étudiants à l'aéroport de Haneda à Tokyo qu'ils étudieraient pendant un semestre à l'université Keio. L'arrivée de ces étudiants est la première à avoir lieu au Japon dans le cadre du programme IISMA, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations éducatives entre l'Indonésie et le Japon. Le programme, lancé par le ministère de l'Éducation et de la Culture en 2020, est un programme de bourse permettant au gouvernement indonésien de financer des programmes de mobilité pour les étudiants indonésiens vers des universités à l'étranger. Actuellement au Japon, seule l'université Keio et l'université d'Osaka sont les deux établissements d'enseignement supérieur partenaires officiels du ministère de l'Éducation et de la Culture dans le cadre du programme IISMA. Selon Yusli, le programme permet également aux étudiants indonésiens de découvrir la culture et le système éducatif avancé du Japon tout en établissant des échanges de connaissances et de technologies entre les deux pays. L'ambassadrice de Russie en Indonésie, Lyudmila Vorobieva, a déclaré mercredi lors d'un point de presse à Jakarta qu'une statue du premier président indonésien Sukarno serait érigé à Moscou en réponse à l'inauguration de la statue du cosmonaute Yuri Gagarin à Jakarta. Une statue du président Sukarno sera érigée au parc artistique Muséum à Moscou en Russie. Lyudmila a poursuivi l'Indonésie et la Russie commémoreront en 2025. 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Selon elle, la statue sera un symbole d'amitié et de relations entre l'Indonésie et la Russie. Auparavant, une statue du cosmonaute russe Yuri Gagarin avait été érigée dans le parc Mataram à Jakarta. L'inauguration de la statue a marqué le point culminant du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Russie en 2020. L'inauguration de la statue du cosmonaute Yuri Gagarin a été réalisée par la signature d'une inscription par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Mahendra Siregar, et l'ambassadrice de Russie en Indonésie, Lyudmila Vorobieva, et le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, en mars 2021. L'ambassadrice de Pologne en Indonésie, Beata Stoczynska, a déclaré que son parti était intéressé à collaborer dans la zone économique spéciale touristique de Likupang dans la région de Minahasa, sur la Sulawesi du Nord, en Indonésie. Beata a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Manado, jeudi 14 septembre, qu'elle espère qu'il y aura d'autres opportunités de coopération, pas seulement à Likupang, dans la ville de Bitung, mais également dans plusieurs endroits de la province. Beata a été impressionnée par le développement dans le nord de Sulawesi. C'est pourquoi son parti a décidé de revenir en septembre et de faire appel à des entrepreneurs ainsi qu'au département du commerce et des investissements. L'ambassadeur de Pologne en Indonésie a également été impressionné par les projets de développement des infrastructures à Manado, tels que de nouvelles routes et un aéroport moderne. En outre, l'ambassadrice de Pologne, qui était accompagnée d'un certain nombre de membres de la délégation et d'hommes d'affaires, a déclaré qu'elle rencontrerait le gouvernement local et répondrait à l'invitation du gouverneur de Sulawesi du Nord pour discuter de diverses opportunités de coopération. L'objectif de la coopération peut être lié aux technologies respectueuses de l'environnement, au développement durable, aux technologies de l'information et au secteur du tourisme. Angkasapura 1 SA Persero, AP1 et l'Association mondiale des compagnies aériennes, International Air Transport Association, IATA, ont signé un protocole d'accord concernant l'amélioration des services et des opérations aéroportuaires au siège social d'AP1 à Jakarta mercredi 13 septembre. Le directeur principal de l'AP1, Faik Fahmi, dans une déclaration reçue à Jakarta jeudi 14 septembre, a déclaré que la signature du protocole d'accord renforcerait encore la coopération entre l'AP1 et l'IATA qui est en place depuis 2015. Selon Faik, AP1 et IATA ont convenu de plusieurs choses qui sont la portée et la format de la coopération, y compris la formation liée aux stratégies d'amélioration de la qualité et des capacités des ressources humaines, les services de conseil pour améliorer les normes de sécurité et les services aéroportuaires, les services de conseil liés aux stratégies financières et services de données de veille économique pour le trafic aérien. Pendant ce temps, le directeur régional adjoint de l'IATA pour l'Asie-Pacifique, Philippe Goh, a déclaré qu'il soutenait fermement tout effort visant à rendre l'écosystème de l'aviation plus forte, plus sûre, plus efficace et durable. Le vice-président indonésien Ma'ruf Amin est parti pour la Chine jeudi 14 septembre pour effectuer une série de visites de travail, notamment pour développer les produits halal indonésiens. Le porte-parole du vice-président Masduki Baydoy a expliqué jeudi dans un communiqué à Jakarta que le vice-président tiendrait plusieurs réunions, notamment avec le secrétaire du comité provincial du Fujian du Parti communiste chinois, le président du comité permanent du comité provincial du Fujian, Congrès populaire Chu Chui. Il s'agit d'une réunion de rupture. Chu Chui a rencontré le vice-président au palais vice-présidentiel de Jakarta le 9 mai 2023. Outre sa rencontre avec Chu Chui, le vice-président rencontrera également des entrepreneurs du Fujian opérant dans le secteur halal, tels que la logistique de la Chine d'approvisionnement des produits alimentaires marins, des boissons et des aliments surgelés. Selon Masduki Baydoy, le vice-président assistera également à l'ouverture de l'Expo China-ASEAN 2023 et au 20e sommet sur l'investissement commercial China-ASEAN au Centre international des congrès et d'exposition de Nanning. Lors de ce forum, le vice-président Ma'ruf Amin prononcera un discours devant des délégués et des entrepreneurs des pays de l'ASEAN et de Chine. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que le train rapide Jakarta-Bandung était en mesure de relancer les opportunités commerciales. Sandiaga racontait mercredi Jakarta, a déclaré que l'exploitation du premier train rapide en Asie du Sud-Est ouvrira de nombreuses opportunités commerciales, notamment dans le domaine du transport. La raison en est qu'à la gare de Bandung Padalarang, les passagers utiliseront d'autres moyens de transport pour se rendre à leur prochaine destination. En dehors de cela, il a encore dit que le tourisme culinaire est également dans des sous-secteurs créatifs et efficaces qui intéressent les touristes. Les opportunités commerciales sont donc encore très ouvertes. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, a accueilli l'atelier sur les études hydrographiques de l'ASEAN qui s'est tenu à Jakarta mercredi 13 septembre 2023. L'atelier ouvert par le secrétaire général du ministère des Transports, Novi Rianto, a réuni entre autres l'ambassadeur de la mission japonaise auprès de l'ASEAN, le secrétaire général adjoint de la communauté économique de l'ASEAN, le secrétariat de l'ASEAN et pays membres de l'ASEAN. Novi a expliqué que cet atelier était l'un des efforts déployés pour poursuivre les discussions afin d'améliorer la sécurité maritime dans le détroit de Malacca et le détroit de Singapour. Novi, dans sa déclaration reçue par republica.co.id jeudi 14 septembre, a déclaré que l'objectif principal de cet atelier était de socialiser la dernière version de la carte maritime électronique du détroit de Malacca et du détroit de Singapour. Selon elle, cette dernière version a été développée par trois pays côtiers, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, soutenus par le Japon. Cette carte fournit des informations importantes sur les eaux profondes, la mission des épaves et récifs coralliens et de rochers dans les eaux. Novi a ajouté que ces informations seront très utiles pour les navires navigants dans le détroit de Malacca et le détroit de Singapour et contribueront bien sûr à la sécurité maritime. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et en pour le titre, le spectacle Rampak Kendang jette un pont sur les relations des Indonésiens et les Japonais. L'École de la République d'Indonésie de Tokyo, SRIT, a eu l'honneur de participer au festival scolaire de Seibu Bunri samedi 9 septembre dernier. Ils sont venus présenter un spectacle unique, Rampak Kendang. Le festival organisé au lycée Seibu Bunri, lycée de Sayama à Saitama, fait partie du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. L'attaché éducatif et culturel de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, Yusri Wardiatno, a déclaré que le spectacle Rampak Kendang pourrait renforcer et rapprocher les relations entre les citoyens des deux pays. Selon Yusri, plus les activités impliquant des contacts entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations, renforceront davantage les relations entre l'Indonésie et le Japon dans divers domaines à l'avenir. Yusri a déclaré que la participation du SRIT au festival Seibu Bunri était une mise en œuvre des résultats de la réunion entre l'attaché éducatif et culturel de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo et le directeur de l'école Seibu Bunri, Marc Pedro, le 16 mai dernier. Il s'agit également d'une visite réciproque de la délégation de l'Université d'Hospitalité de Seibu Bunri à l'ambassade d'Indonésie le 10 août. À l'avenir, on espère que plus d'activités culturelles seront réalisées conjointement entre le SRIT et l'ambassade d'Indonésie à Tokyo avec Seibu Bunri. Rampak Kendang est une œuvre d'art musical traditionnel indonésien qui combine des éléments de gamelan et de tambour. Cet art a été mené par 10 étudiants du SRIT et un enseignant superviseur. Dans un communiqué officiel de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, lundi 11 septembre, il a été déclaré que leur performance avait vraiment émerveillé le public rassemblé dans la cour principale de l'école Seibu Bunri. Plusieurs étudiants de Seibu Bunri ont également essayé de jouer avec le matériel Rampak Kendang, y compris du gamelan et du tambour. Le directeur de Seibu Bunri, Marc Pedro, a également exprimé sa gratitude pour la visite du SRIT dans son école. Les deux écoles ont convenu d'explorer diverses autres activités qui pourraient être menées ensemble à l'avenir. Selon Yusri Wardiatno, même si la distance entre Sayama et Tokyo semble assez longue sur la carte, avec des transports efficaces, le trajet ne prend qu'environ 1h30. Cela ouvre de grandes opportunités d'échanges culturels et une collaboration plus étroite entre les deux écoles. C'est le temps, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. La voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts. Qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 septembre 1960, la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, est une organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation est un lieu de négociation sur les questions liées à la production, aux prix et aux exportations de pétrole entre ces pays membres. L'OPEP a été fondée le 14 septembre 1960 à Bagdad, en Irak, par cinq pays possédant d'énormes ressources pétrolières, à savoir l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Lors de sa création, le nombre de membres n'était que de cinq pays. Depuis 1965, le secrétariat de l'OPEP est situé à Vienne, en Autriche. Passons maintenant à l'événement du 14 septembre 2007, le Japon a lancé un vaisseau spatial vers la Lune. Le Japon a lancé une sonde spatiale nommée Kaguya le 14 septembre 2007 depuis le centre spatial de Tanegashima sur l'île de Tanegashima dans la préfecture de Kagoshima vers son orbite géostationnaire sur la Lune. Le nom Kaguya est tiré du nom d'une princesse dans la légende japonaise. Un autre nom est Selene, explorateur sénologique en ingénierie. Kaguya ou Selene est un projet développé par la JAXA ou Agence japonaise d'exploration aérospatiale qui a été construit en 1969 pour développer des missions de développement spatial. La mission principale de Kaguya est d'explorer la Lune et de rechercher la surface lunaire, la gravité et d'autres choses pour découvrir l'origine et l'évolution de la Lune. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 septembre 2003. L'Estonie organise un référendum pour adhérer à l'Union européenne. Le 14 septembre 2003, un référendum a eu lieu pour décider si l'Estonie devait ou non adhérer à l'Union européenne. L'adhésion à l'Union européenne est l'un des principaux objectifs de politique étrangère de l'Estonie depuis son indépendance en 1991. L'Estonie a été invitée à rejoindre l'Union européenne en 1997 et a été formellement invitée à se joindre au sommet de Copenhague en décembre 2022. Les résultats du référendum, plus des deux tiers des électeurs, ont voté en faveur de l'adhésion de l'Europe. L'Estonie a finalement rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Dia, oh putri remaja, hey, dia malu-malu. selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie. Et pour le titre, BNPB a déclaré que la pulvérisation de brouillards d'eau continuait de poursuivre pour purifier l'air de Jakarta. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, en collaboration avec l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, l'Armée nationale indonésienne, TNI et d'autres parties concernées, tentent de réduire la pollution de l'air dans la capitale, Jakarta, en utilisant la méthode de pulvérisation de brouillard d'eau. Le chef du Centre de données, d'information et de communication sur les catastrophes du BNPB, Abdul Muhari, a déclaré mardi dans un communiqué diffusé à Jakarta que cette opération avait été menée du lundi 4 septembre 2023 au lundi 11 septembre 2023 avec une durée de vol de 82 heures 50 minutes. Cette opération a également été réalisée en utilisant 70 500 litres d'eau qui ont été pulvérisés pour former une évaporation artificielle dans le ciel de Jakarta. Abdul a déclaré que l'effort de technologie de modification météorologique TMC avait été réalisé à l'aide de deux avions Cessna. En une journée, chaque avion trie quatre fois dans plusieurs zones de Jakarta, notamment le centre de Jakarta, l'est de Jakarta et le nord de Jakarta. Selon lui, ces efforts commencent à avoir un impact significatif où il y a une réduction de la valeur du polluant PM2,5 basé sur ikair.com, de sorte que le ciel de la région de Jakarta commence à apparaître propre. Il a déclaré que BNPB continuerait de déployer des efforts pour réduire la pollution à Jakarta en ajustant les conditions nécessaires. Outre le BNPB, le gouvernement provincial du DKI Jakarta a également installé des générateurs de brouillard d'eau dans les bureaux du gouvernement du DKI Jakarta dans le but de réduire les niveaux de pollution. Tri Handoko Seto, expert en modification météo et initiateur du générateur de brouillard d'eau, a expliqué que lors d'essais, cet outil était capable de réduire les niveaux de pollution jusqu'à 50%. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, le 1er septembre dernier, la communauté du village d'Ambel Ketawang, le district de Gamping, Sleman, Yogyakarta, a célébré la tradition Saparan Bekakak. Saparan Bekakak est une tradition célébrée tous les 15 du mois de Sapar dans le calendrier javanais et cette année, ce moment tombe le 1er septembre 2023. Le mot Sapar en arabe est synonyme du deuxième mois arabe. Saparan est donc une cérémonie de célébration organisée chaque mois Sapar. Alors que Bekakak signifie victime d'abattage d'animaux ou d'humains. Ainsi, la tradition Saparan Bekakak est une tradition consistant à abattre symboliquement le Bekakak au mois de Sapar. Le Bekakak dans cette présentation n'est qu'une imitation humaine sous la forme d'une poupée de mariée assise en tailleur fabriquée à partir de la farine de riz gluant. Le but de l'organisation de Saparan Bekakak est d'honorer les esprits de Kiai, Nyai Wirasuta et sa famille. Kiai Wirasuta était un serviteur du palais Penangsong ou serviteur qui a la tâche de couvrir Sri Sultan Hamengkubuwono I, mais n'a pas déménagé du palais au Pesanggrahan Ambel Ketawang au nouveau palais qui se trouve actuellement. Kiai Wirasuta vit toujours avec sa famille à Gamping. À la pleine lune, un désastre s'est produit, le mont Gamping s'est effondré. Kiai Wirasuta et sa famille ont été touchés par une avalanche et ont été portés disparus car leur corps n'ont pas été retrouvés. La tradition Saparan Bekakak visait initialement à honorer la loyauté de Ki Wirasuta et Nyi Wirasuta envers Sri Sultan Hamengkubuwono I. Cependant, au fil du temps, cette tradition a changé et a été organisée pour assurer la sécurité des habitants qui prenaient du calcaire pour éviter les catastrophes, car l'extraction du calcaire est assez difficile et dangereuse. Cette tradition se déroule en organisant le carnaval Bekakak à partir du bureau du district d'Ambel Ketawang, puis en massacrant symboliquement le Bekakak sur le mont Gamping. Bon, chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la merveilleuse mosquée d'Indonésie et catalogue. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Monsieur Sandiaga Salahuddin Uno, récemment a lancé le catalogue électronique de la merveilleuse mosquée d'Indonésie. Sandiaga a déclaré que le but du lancement de ce catalogue électronique était de fournir des informations aux touristes sur les mosquées qui sont des destinations touristiques religieuses en Indonésie. Selon Sandiaga, l'une des destinations préférées en Indonésie sont les belles mosquées et jusqu'à présent, les mosquées en Indonésie ne sont pas encore désignées comme tourisme favorable aux musulmans. Par conséquent, avec le lancement de ce catalogue électronique, les mosquées seront encouragées à devenir des attractions touristiques afin que de nombreux touristes visitent certaines régions d'Indonésie. On espère également créer de nouveaux itinéraires de destinations touristiques, notamment l'exploration de l'archipel en visitant des mosquées iconiques. Sandiaga Uno a ajouté que même si elle est gérée comme une attraction touristique, cette gestion ne doit pas abandonner sa fonction principale de lieu de culte. Il expliquait le long voyage à travers différents types d'acculturation culturelle rendant les mosquées en Indonésie uniques et diversifiées. Les mosquées en Indonésie, selon Sandiaga, sont des institutions religieuses qui ne peuvent pas être séparées de la vie sociale de la société. En plus d'être un lieu de culte, la mosquée fonctionne également comme un lieu de discussion, d'activités commerciales, d'éducation et d'autres activités sociales. Ce catalogue électronique ne peut pas encore accueillir le grand potentiel des autres mosquées en Indonésie, mais le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative espère que le lancement de ce catalogue électronique pourra être une motivation pour les administrateurs de mosquées de toute l'Indonésie à promouvoir leurs mosquées. Ce catalogue électronique contient des informations sur 74 mosquées de 16 provinces d'Indonésie qui ont des attractions touristiques potentielles basé sur 7 catégories thématiques, à savoir la valeur historique, la valeur architecturale, la valeur culturelle, la valeur d'agrément, la valeur éducative et religieuse, la valeur des destinations de pèlerinage, la valeur entrepreneur social et la valeur sociale. Ce catalogue électronique peut être téléchargé via le site www.indonesia.travel. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
barisan awan putih berlari-lari imaji sendiri sunyi menyepi hanya aku yang menunggu cerat rindu dan kau harus sadari itu segaris warna hitam biru dan memori itu berulang aku menunggu kembali padaku aku
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des cinq destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voynews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour nous de vous présenter le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson d'Hermi Kulit. Hermi Kulit est une chanteuse de jazz indonésienne. Elle a commencé sa carrière de chanteuse en 1973. Au cours de sa carrière comme chanteuse, elle a enregistré plus de 20 albums. En mai 2017, la maison de Dix où Hermi Kulit était basée à l'époque a rendu hommage à son travail dans l'industrie musicale indonésienne. Ses 20 chansons à succès ont été rééditées sous forme numérique. L'une d'entre elles est une chanson à succès intitulée Pasrah. Cette chanson de Richard Kyoto raconte la résignation de quelqu'un qui ne voit plus sa bien-aimée. Même s'il attendait depuis longtemps, son amant n'est jamais venu et il n'a même pas eu de ses nouvelles. Bon, chers auditeurs, voici une chanson d'Hermi Kulit intitulée Pasrah. Bonne écoute!
Lama ku rasa sepinya hati. Harus ku cari tempat
semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya. Ini aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Padanya Ilahi.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.